Notre première rencontre dimanche dernier avait comme thème « Pourquoi nous réunir ?» Jeudi soir, nous avons cherché par la parole à répondre à la question « Avec qui nous réunir ?» Et ce soir, nous prenons comme thème « Comment nous réunir ?» Et sous cette question, nous avons retenu trois points principaux autour d'un sens, comme membre du corps de Christ et sous la conduite du Saint-Esprit. Alors, en rapport avec le premier point, autour d'un sens, nous voulons lire deux passages très connus et qui sont quand même fondamentaux dans Matthieu 18. Matthieu 18, verset 18. En vérité, je vous dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous sont d'accord sur la terre pour une chose quelconque, quelle que soit la chose qu'ils demanderont, elle sera faite pour eux par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 20 de l'évangile de Jean. Le soir donc, au verset 19, le soir donc étant venu, ce jour-là, le premier de la semaine, à les portes du lieu où les disciples étaient par crainte des Juifs étant fermés, Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Et il leur dit, paix vous soit. Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur. Jésus donc leur dit encore, paix vous soit. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla en eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. À quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis. Et à quiconque vous les retiendrez, ils sont retenus. Lorsqu'on pose la question « Comment nous réunir ?», on pense, entre autres, à l'endroit où il faut se réunir. Et comme l'esprit humain veut toujours matérialiser ce qui est spirituel, on en est venu très vite à considérer certains lieux géographiquement fixés, certains bâtiments, comme étant l'Église, d'où l'emploi du mot « Église » pour désigner non seulement l'ensemble des croyants ou la réunion des croyants, mais le bâtiment où ils se réunissent. Or, il faut prendre garde à cela. Ce n'est pas l'endroit physique où l'on se réunit qui compte. Pas que le Seigneur nous l'a fait toucher du doigt il y a un certain nombre d'années, quand notre local du Grand Chêne avait brûlé, quand nous sommes réunis au comptoir, pouvions avoir la présence du Seigneur au milieu de ceux rassemblés à son nom tout aussi bien, au comptoir, à Beaulieu, au Grand Chêne ou ici. Ce n'est pas l'endroit physique qui compte, mais c'est d'être réunis, d'être assemblés autour d'une personne connue, aimée, respectée. Ce passage de Matthieu 18 est le second dans le Nouveau Testament qui parle de l'Assemblée. Il a déjà fait allusion à celui du chapitre 15, là où le Seigneur dit « Je bâtirai mon Assemblée ». C'est l'aspect de la maison de Dieu, celle que le Seigneur l'a bâtie. Puis dans ce passage de Matthieu 18, lorsqu'il y a un péché entre un frère contre un autre, le frère fautif ne veut pas écouter, alors il faut en parler à l'Assemblée. Ayant introduit le sujet de l'Assemblée, le Seigneur en vient dans ses versets 18 à 20 à donner un certain nombre d'instructions qui sont développées dans les Épîtres. Ces versets se lient les uns aux autres. Il y a le verset 18. Il confie à l'Assemblée une autorité administrative sur la terre. Il y a le verset 19, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous sont d'accord, la prière en assemblée. » Et enfin, le verset 20, qui est la conclusion de ces deux versets, « Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Le français ne donne peut-être pas tout à fait la portée des termes, mais lorsqu'il est dit sont assemblés en mon nom ou à mon nom, cela veut dire sont venus se réunir à mon nom. C'est mon nom qui les a attirés, qui les a réunis autour de moi. En allemand, on dit « to meinem Namen ». En anglais, « to my name ». En français, c'est un peu plus difficile. Mais enfin, le sens nous éclaire. Assemblé à son nom. Le nom de Christ. Le nom du Seigneur Jésus. Le nom et la personne de celui qui nous a rachetés, qui nous aime. Lorsqu'on se réunit en assemblée, on se réunit au nom du Seigneur, autour du Seigneur, dans la présence du Seigneur. Dans le psaume 22, qui annonçait déjà prophétiquement les résultats de la croix, le Seigneur dit, « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée. » Et le jour de la résurrection, le premier message du Seigneur par Marie de Magdala, et va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. C'est le nom du Père qui est la base de la nouvelle relation des croyants avec Dieu. Et puis ce jour-là, le premier de la semaine, comme nous venons de le lire, Jésus vint et se tint au milieu d'eux et leur dit, paix vous soit. Alors les disciples se réjouirent quand ils virent le Seigneur. Et il reste quelque chose de cette joie, du jour de la résurrection, du premier jour de la semaine. Chaque fois que nous sommes réunis autour du Seigneur, tout spécialement pour le culte, sans doute, puisqu'ici Jésus montre ses mains et son côté, ce qui parlait de ses souffrances, souffrances de la part des hommes, ses mains percées, souffrances expiatoires, son côté percé d'où est sorti le sang et l'eau qui purifie. Mais aussi chaque fois que l'on se retrouve vraiment dans la présence du Seigneur, il y a une joie toute particulière. Et c'est le témoignage de personnes qui, le croyant, qui pour une raison ou pour une autre, ont goûté de cette joie et l'ont perdue, de dire qu'ils n'ont pas retrouvé ce qu'ils avaient perdu. Là, nous l'avons entendu de plus d'une personne. Y été pour des raisons morales, que cela y été pour des raisons doctrinales ou de ces malheureuses choses qui arrivent. Avoir goûté de la présence du Seigneur, réuni autour de lui tout spécialement pour l'adoration, on ne le retrouve pas si facile. Si on l'appelle. À la présence du Seigneur, comme centre de rassemblement, se lie le fait qu'il est la tête du corps, qu'il est le chef de l'assemblée. Nous l'avons lu dans les Colossiens, dans les Éphésiens. Et c'est en rapport avec sa résurrection, premier-né d'entre les morts, que Dieu l'a donné comme chef sur toute chose et à l'assemblée qui est son corps. Il est le chef, il est la tête. C'est lui qui a l'autorité. Lorsque dans Matthieu 18, il dit « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel », c'est une formule que les rabbins avaient en usage pour indiquer « lier », c'est condamner, « délier », c'est absoudre, libérer du fardeau du péché. Le Seigneur donne cette autorité à l'assemblée, mais il ajoute, car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. L'autorité ne peut être exercée que dans la réalisation, dans le sentiment et dans la réalité de la présence du Seigneur. C'est ce qui rend toute décision d'une assemblée pour lier ou délier si sérieuse, c'est qu'elle n'a de valeur que si elle est prise dans la présence du Seigneur. D'où aussi, lorsque c'est le cas, de son importance, puisqu'elle est ratifiée dans le ciel. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Il ne s'agit pas du tout du salut éternel, il s'agit du gouvernement de Dieu, de l'administration de l'Assemblée. Nous n'allons pas entrer dans ce sujet, mais enfin la parole distingue très nettement ce qui touche au salut éternel qui nous est acquis par l'œuvre de Christ. Et parlant de ses brebis, le Seigneur dit « Personne ne les ravira de ma main, même si la brebis est désobéissante, même si la brebis se conduit mal ou développe des idées contraires à la parole. Si c'est une brebis du Seigneur, elle reste une brebis égarée, mais elle reste une brebis malade, mais elle reste une brebis. » Ça, c'est le salut éternel. Mais, quant au gouvernement de Dieu sur la terre, il y a exclusion, restauration, il y a communion exprimée, il y a séparation, comme nous l'avons vu dans quelques cas, je l'y souhaite. Autorité du Seigneur dans l'Assemblée et sainteté qui est liée à la présence du Seigneur. La sainteté, faut toujours s'en souvenir, c'est la mise à part pour Dieu. Et saint, celui qui a été mis à part d'une ambiance, retiré d'une ambiance pour Dieu. Non pas une séparation simplement pour la séparation, mais pour Dieu, un Dieu. Nous avions lu le passage dans 2 Corinthiens 6. Il nous dit, quelle communion y a-t-il entre le croyant et l'incrédule, entre le temple de Dieu et les idoles. Et ensuite, Dieu dit au verset 17, « Sortez du milieu d'eux, soyez séparés, donc de tout ce qui est idolâtre dans ce passage, ne touchez pas ce qui est impur, moi je vous recevrai, je vous serai pour père, et vous me serez pour fils et pour fille, dit le Seigneur le Tout-Puissant. » Voilà des âmes, des croyants qui sont retirés d'une ambiance idolâtre, séparés d'un milieu impur, qui viennent à Dieu, je vous serai pour père, vous me serez pour fils et pour fille. C'est donc la mise à part pour Dieu. Et alors la conclusion, chapitre 7, verset 1, « Ayant donc ces promesses bien-aimées, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de chair et d'esprit, achevons la sainteté dans la crainte de Dieu. » Nous avons chanté ce matin que c'est pour t'honorer que tu nous mises à part. À la fin du cantique 16. Et c'est bien cela à quoi nous sommes appelés, dans la présence du Seigneur, de réaliser que nous sommes mis à part pour lui. À cela se lie le sujet dans lequel nous ne pouvons entrer, mais qu'on présente très souvent, en rapport avec la scène du jugement de soi-même. Il n'est pas dit de ne pas participer à la scène si l'on a manqué, ni de s'examiner pour voir si l'on peut participer ou pas, mais que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange. Dans cet état d'esprit de s'être éprouvé soi-même devant Dieu, d'avoir reconnu ce qui a manqué, d'avoir reconnu ce qui en nous est une racine de mal, on participe dans le sentiment de la grâce de Dieu. Et alors nous sommes appelés à nous purifier nous-mêmes de toute souillure de chair et d'esprit. Nous savons que nous manquons tous à plusieurs égards, mais qu'il est pourvu à ses manquements si nous les reconnaissons et les confessons. Et nous pouvons ainsi nous retrouver dans la présence du Seigneur. Et sans jamais oublier que cette présence implique à la fois son autorité et la mise à part pour Dieu, la sainteté à Dieu. Le deuxième point que nous voulions retenir, donc, que nous nous réunissons en tant que membres du corps de Christ. C'est un point essentiel qui a peut-être, il y a quelques difficultés à saisir, mais l'on ne se réunit pas parce qu'on est d'accord. parce qu'on a les mêmes idées. Sans doute, c'est très désirable d'avoir une même pensée, mais ce n'est pas ce qui forme la base. On se réunit parce que le Seigneur nous a mis ensemble, comme nous l'avons vu dimanche dernier, comme membres du corps de Christ. Sans doute que lorsqu'on se réunit, même si on est un peu nombreux comme ce soir, quoique ce soit si peu de choses par rapport à la population de la ville, lorsqu'on se réunit, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas là, pour toutes sortes de raisons, les unes valables, les autres non. Et on en souffre, et on le regrette. Mais on se réunit en tant que membre du corps de Christ, parce qu'on fait partie de cet ensemble qu'il a lui-même formé, son corps, l'assemblée qui est son corps, dont il est la tête, on se réunit sur cette base, en tant que membre du corps de Christ. Nous le perdons souvent de vue, nous l'oublions, nous le réalisons mal, mais c'est quand même la base à laquelle il faut toujours revenir. Et si cette base est bien saisie, elle nous fait embrasser dans nos cœurs, dans nos pensées, et dans nos pensées intelligentes, tous les enfants de Dieu, tous les membres du corps de Christ. On ne se réunit pas comme une fraction du corps, mais sur la base de l'ensemble du corps, comme membre de ce corps. Cela ne sera réalisé pleinement que au retour du Seigneur, lorsque réalisera ce passage d'Éphésiens 1, l'assemblée qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Mais en attendant, avec chagrin et souffrance, mais aussi avec reconnaissance, on se retrouve autour du Seigneur comme membre de son corps. Non pas comme une communauté constituée sur certaines bases, sur certains points d'accord, sur certains statuts, mais sur cet organisme, comme faisant partie de cet organisme vivant qui est le corps de Christ. Souvent dit, l'Assemblée de Dieu n'est pas une organisation, ou le corps de Christ n'est pas une organisation, c'est un organisme vivant, dont les membres sont unis les uns aux autres par le Saint-Esprit et par la même vie. Nous voulons lire un passage dans 1 Corinthiens 12, nous avions déjà mentionné dimanche dernier, simplement le verset 27. S'adressant aux Corinthiens, l'apôtre dit « Or, vous êtes le corps de Christ et ses membres chacun en particulier. Vous, réunis à Corinthe, avec toutes les manquements et les fautes qu'il y avait dans cette assemblée, vous êtes le corps de Christ et ses membres, chacun en particulier. » Donc le corps de Christ est vu comme l'ensemble de tous les croyants, soit tous ceux de la Pentecôte à l'enlèvement de l'Église, Éphésiens 1, soit tous les croyants vivant sur la terre à un moment donné, mais aussi les croyants réunis dans un endroit sont non pas une partie, on ne dit pas vous êtes une partie du corps de Christ, vous êtes le corps de Christ. Et on voit la même chose dans les passages où l'assemblée est mentionnée, bien des fois. L'assemblée de Dieu, ce n'est pas l'addition de plusieurs assemblées locales, mais chaque assemblée locale est l'assemblée de Dieu, est le corps de Christ. Alors aujourd'hui, bien sûr, que nous le réalisons que partiellement, avec beaucoup de chagrin, de tout ce qui manque, mais il n'en reste pas moins que vous êtes le corps de Christ et ses membres chacun en particulier. Et qu'il se rattache à ce fait d'être réunis comme membres du corps de Christ autour du Seigneur un certain nombre de choses que nous voulons relever. Tout d'abord, quant aux membres, il nous est dit à la fin du verset 25 que les membres ayant un égal soin les uns des autres. Les soins les uns pour les autres. Ça, c'est pas une question de don, on verra tout à l'heure. Ce n'est pas une question de charge, les anciens, les surveillants. Mais que tous les membres aient un égal soin les uns des autres. Et combien cette activité fraternelle est précieuse. D'avoir un égal soin pour les divers membres du corps de Christ. Il y en a des femmes, il y en a qui sont plus honorables que d'autres, c'est dans les versets précédents. Il y en a qui sont comparés à la main, à l'oreille, à l'œil et au pied. Tous n'ont pas la même fonction, différents les uns des autres. Dieu a placé les membres dans le corps comme il l'a voulu. Nous sommes exhortés et appelés à avoir un égal soin les uns des autres. À part cela, il y a évidemment les dons. Il nous faut passer à Éphésiens 4. Il y a une question dans ce chapitre 12, mais nous voulons prendre celui d'Éphésiens 4 et lire quelques versets dans ce chapitre. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelé, avec toute humilité et douceur, avec longanimité, vous supportant l'un l'autre dans l'amour, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix, un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés pour une seule espérance de votre appel, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, et partout et en nous tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée, selon la mesure du don du Christ. Verset 11. Et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue du perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. Verset 16. Duquel tout le corps, bien ajusté et lié ensemble par chaque jointure du fournissement, produit selon l'opération de chaque partie dans sa mesure, l'accroissement du corps pour l'édification de lui-même en amour. Un mot revient plus d'une fois dans ces versets, c'est que il a donné. Pour le bien du corps, pour l'édification du corps, pour la nourriture du corps, Dieu a donné. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. À chacun de nous. Il y a ensuite les dons plus particuliers, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Ces dons ont été donnés par le Seigneur ou par Dieu ou par l'Esprit, suivant les passages, et s'exercent dans l'Assemblée et dans le monde. Évangéliste. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée dans la mesure du don du Christ. Chacun a une fonction à remplir dans le corps de Christ. Il nous est dit au verset 16, tout le corps produit l'accroissement du corps. Tout le corps produit selon l'opération de chaque partie dans sa mesure, l'accroissement du corps. Alors, si l'on est réuni autour du Seigneur comme membre de son corps, sans doute que toutes les ressources qu'il y avait, parce que tous les rachetés étaient ensemble, ne sont pas là. Mais le Seigneur donne quand même. Il peut donner des dons de pasteurs, de docteurs, d'évangélistes, de prophètes, selon 1 Corinthiens 14. Mais aussi à chacun de nous, la grâce a été donnée. Chacun est une jointure. Chacun est appelé, selon l'opération de chaque partie dans sa mesure, à produire l'accroissement du corps. Et alors voilà, on se réunit autour du Seigneur, oui, on vient à la réunion, puis on se dit, est-ce qu'il y aura tel frère, est-ce qu'il ne sera pas là? Et on oublie tout à fait que pour que l'accroissement du corps soit produit, il faut que chaque partie, dans sa mesure, tirant la substance du chef, duquel tout le corps produit, selon l'opération de chaque partie dans sa mesure, l'accroissement du corps, on oublie que chaque partie est appelée à produire l'accroissement du corps, sans doute pas par la présentation de la parole. Il y a des dons pour cela, il y a ceux que le Seigneur appelle à le faire, même sans qu'il y ait un don tout particulier. Mais chaque partie d'un samedi produit l'accroissement du corps. Dans les relations entre frères et sœurs, dans l'attitude, dans l'état d'âme que l'on apporte dans le rassemblement, dans la manière sur laquelle on se retrouve dans la présence du Seigneur. Il y avait une brochure, quand nous étions jeunes, je crois qu'elle est épuisée. Qu'êtes-vous, une aide ou une entrave? Vous venez dans le rassemblement et vous êtes ou une aide ou une entrave. Alors, le frère qui écrivait, je crois que c'était notre frère McIntosh, qui écrivait cette brochure, tâchait de montrer comment on peut être une aide ou une entrave dans le rassemblement autour du Seigneur. Mais ce que chacun apporte, son état d'esprit, son affection, son amour pour le Seigneur, son amour pour ses frères et sœurs, tout cela compte. Tout le corps produit dans l'opération de chaque partie dans sa mesure l'accroissement du corps. Une autre chose, qu'avant de développer ce fonctionnement du corps, l'apôtre dit au verset 2, avec toute humilité et douceur, avec longanimité, vous supportons l'un l'autre dans l'amour. C'est frappant dans Matthieu 18, dont nous aimons à détacher le passage, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux, parce qu'il est très précieux, que la première partie du chapitre est consacrée par le Seigneur à l'humilité et au danger des occasions de chute. Et la dernière partie du chapitre est consacrée par le Seigneur au pardon à ses frères. Celui à qui il avait été remis une immense dette, exigeait de son frère la petite dette et puis l'étranglait parce qu'il ne payait pas. Alors le Seigneur enseigne l'humilité dans la première partie du chapitre, le pardon dans la troisième, et puis au centre nous donne ses premiers aperçus de la valeur du rassemblement autour de lui. Puis dans ce chapitre des Éphésiens, où est développé tout l'enseignement de l'apôtre sur le corps, il commence à parler de toute humilité et douceur, longanimité, vous supportant l'un l'autre dans l'amour. On peut trouver cinq choses, humilité, douceur, longanimité, support et amour. On les a rapprochés à tort ou à raison, aux traverses qui tenaient ensemble les planches qui constituaient le tabernacle. Le tabernacle dans le désert était constitué par des grandes planches dressées verticalement et juxtaposées, placées les unes à côté des autres. Alors pour qu'elles tiennent ensemble, il y avait des traverses qui passaient de l'une à l'autre dans des anneaux. Il y en avait cinq. On a comparé ces cinq traverses à ces cinq qualités indispensables si l'on veut marcher ensemble. S'il n'y a pas d'humilité, de douceur, de longanimité, de support, d'amour, on ne pourra jamais marcher ensemble. Mais alors, vous appliquons à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité de l'esprit, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. Cette unité est produite par le Saint-Esprit, il faut la garder. Elle existe. Il faut la garder. Par contre, nous n'avons pas tous le même degré d'intelligence spirituelle, le même degré de compréhension de la parole. Alors il nous est dit, après l'énumération des dons et le but pour lequel ils sont donnés au verset 13, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous n'avons pas tous atteint le même degré dans la foi chrétienne, ou la même compréhension, ni dans la connaissance du Fils de Dieu. Et alors le ministère est là, les dons, tout ce que le Seigneur donne à son corps pour nous faire faire des progrès, pour que nous croissions jusqu'à lui. L'unité de la foi, il faut y parvenir. Mais l'unité de l'esprit, elle existe. Nous avons à la garder. Et avec toute humilité, douceur, longanimité, support et amour. Je vais en lire encore un passage dans la première épître de Pierre. Chapitre 4, 1 Pierre, chapitre 4. Verset 10. « Tu suivant que chacun de vous a reçu quelque don de grâce, employez-le les uns pour les autres comme bon dispensateur de la grâce variée de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme oracle de Dieu. Si quelqu'un sert, qu'il le serve comme par la force que Dieu fournit, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui est la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. De nouveau, chacun a reçu quelques dons de grâce, employez-le les uns pour les autres. Alors, quand on a reçu quelques dons de grâce, et chacun est appelé à discerner quel don le Seigneur a pu lui confier, il faut l'employer les uns pour les autres. Si c'était le cas, il y aurait beaucoup plus de présentation de la parole, de prière, de cantique dans l'assemblée. Et il y aurait aussi davantage d'encouragement mutuel par la parole, par la prière en commun, lorsqu'on se retrouve entre frères et sœurs. Et ensuite, il est dit, si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme oracle de Dieu. Si quelqu'un parle, en particulier dans l'assemblée, qu'il ait ce sentiment qu'il parle de la part de Dieu, comme oracle de Dieu. Non pas qu'il vient dire ses propres pensées, ou ce qui lui a passé par l'esprit, ou ce qu'il a mémorisé, mais comme oracle de Dieu. Alors d'un côté, il y a l'exhortation à employer les uns pour les autres, tout don de grâce qu'on peut avoir reçu. Dans les Corinthiens, il est dit « désirer avec ardeur les dons spirituels, surtout prophétiser ». On n'a pas reçu des dons une fois pour toutes, ce n'est pas statique. Et il y a des progrès, désirés avec ardeur des dons spirituels, mais pour l'édification de l'assemblée, et que celui qui parle, parle comme oracle de Dieu. Et alors, il y a du bien. Si quelqu'un sert, on désire servir, et beaucoup de jeunes parmi nous désirent servir le Seigneur, dans l'évangile, et auprès des enfants, et auprès des malades, et de diverses manières, donc le Seigneur en donne l'occasion. Si quelqu'un sert, qu'il serve comme par la force que Dieu fournit. Il faut la force de Dieu. Il faut aller dans le sentiment que l'on est accompagné du Seigneur, que l'on vient de la part du Seigneur, avec la force que Dieu fournit. Et alors, le résultat, afin qu'en toute chose, le serviteur soit glorifié ou approuvé, non. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus. Que tout service, que toute action dans l'assemblée, que toute communication de la parole de Dieu, que ce soit pour les croyants, que ce soit dans l'évangile, que ce soit pour la consolation, eh bien, que ce soit de la part de Dieu, pour la gloire de Dieu, afin que Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui est la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. La joie de se réunir autour du Seigneur, là où lui est le centre, mais en reconnaissant qu'il est le chef, et en étant exercé quant à la sainteté qui convient à sa présence. Se réunir comme membre du corps de Christ, où chacun a une fonction à remplir dans le corps, duquel tout le corps produit la croissance du corps, de Christ, tirant de Christ ce qui est nécessaire, servant comme par la force que Dieu fournit, parlant comme oracle de Dieu, ayant le sentiment d'avoir reçu quelques dons de grâce pour être un bon dispensateur de la grâce variée de Dieu, bien, c'est un très grand privilège, une très grande joie, si on peut le réaliser dans une mesure. Cela efface un peu l'importance des hommes, mais cela donne au Seigneur la place qui lui revient. C'est justement en rapport avec sa place de chef de l'Assemblée qu'il est dit dans les le tien. Afin qu'en toute chose, il tienne lui la première place.
Le sujet qu'il reste à développer est celui de l'action du Saint-Esprit pendant les temps que nous vivons dans l'individu et dans l'Assemblée. J'aimerais présenter ce sujet d'une façon résumée. mais j'aimerais le présenter en relation avec l'activité de cette personne divine dans le croyant d'une part et dans l'Église de Christ d'autre part, ce qui nous donne naturellement deux parties à cet exposé. La présence du Saint-Esprit comme personne divine est le caractère particulier de l'époque de l'Église. C'est-à-dire que depuis le chapitre 2 des Actes, où nous avons la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, jusqu'au retour du Seigneur pour enlever son Église, pendant cette dispensation qui à juste titre est appelée le temps de l'Église, c'est aussi le temps de la présence du Saint-Esprit comme personne divine sur la terre. Sans doute que l'Esprit Saint avait opéré du temps des Pères par les prophètes, sans doute que l'Esprit avait agi dans la personne d'un Moïse, mais ce n'est pas cette présence personnelle d'une personne de la Trinité sur la terre entre le jour de la Pentecôte et le jour très prochain où le Seigneur enlèvera son Église auprès de lui pour l'éternité. Le Seigneur a dit quelque chose à ses disciples dans l'évangile de Jean qui aurait pu leur paraître surprenant. « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, je vous enverrai un consolateur, l'Esprit de vérité. » Autrement dit, nous qui souvent, lorsque nous lisons l'évangile, regrettons tellement que le Seigneur ne soit plus parmi nous dans les jours de sa chair, que nous ne puissions pas le voir marcher sur les sentiers de la terre, le faire entrer dans notre maison, lui poser des questions, peut-être l'honorer nous-mêmes. Nous vivons dans un temps que le Seigneur dit préférable à celui où lui-même était avec ses disciples sur la terre. En quoi ce temps est-il préférable? C'est que nous avons ce bon Esprit de Dieu qui agit dans le monde et qui agit en nous, ce que les disciples n'avaient pas, ce qui nous permet de pénétrer plus avant dans la pensée de Dieu que les disciples n'ont jamais pu le faire. Et en relation avec l'activité de ce bon Esprit de Dieu dans l'homme, je dirais quand même quelques mots, puisqu'il y a beaucoup de monde. Il y a dans cette salle sans doute beaucoup de croyants. Y a-t-il peut-être des incroyants? Dieu le sait. Mais ce qui crée dans l'homme cette préoccupation très grave d'être en règle avec Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui agit déjà dans l'homme. C'est une activité préalable de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs et dans nos consciences que de nous poser des questions relativement à notre situation devant Dieu. Il est touchant de voir, quand on parle avec certains jeunes hommes ou jeunes filles préoccupés par ces questions religieuses, il est très touchant de voir comment cet Esprit de Dieu travaille déjà pour qu'il se pose ces questions. Si le Seigneur venait, serais-je pris auprès de lui? Ai-je la paix avec Dieu? Qu'en est-il du Seigneur lui-même, du Fils éternel de Dieu? Toutes ces questions qu'on doit se poser et qui travaillent l'âme et qui fait que, pour certains, le travail étant tellement profond, on peut en être pendant quelque temps profondément malheureux. Et c'est l'activité de l'Esprit dans l'homme qui fait poser ces questions. Et quand la joie du salut est là, quand on a découvert dans le Seigneur notre Sauveur, le Fils éternel de Dieu,
et que l'on connaît cette joie du salut en sachant que c'est lui qui est mort pour nous et qui nous a sauvés, c'est encore l'Esprit Saint qui a agi en nous pour nous faire discerner dans le Seigneur des Évangiles, le Sauveur du monde. Quelle belle activité que l'activité du Saint-Esprit dans les temps actuels. Et le Seigneur l'a dit, il faut être né d'eau et d'esprit. Autrement dit, quand cette bonne parole de Dieu est appliquée à une âme tourmentée qui trouve dans cette parole son salut, eh bien, c'est encore une opération de l'Esprit de Dieu. Et ensuite, on avance comme chrétien, puis l'on fait des expériences qui ne sont pas toujours brillantes. On s'aperçoit que bien qu'on ait le salut, eh bien, on continue à pécher, et cela crée de nouveaux problèmes pour le chrétien. Puis on s'aperçoit qu'il y a des chrétiens qui ont de graves défauts, qui se mettent en colère, qui sont avares, et tout cela crée des déceptions. Alors il y a un nouveau travail de l'esprit pour nous amener à considérer l'esprit dans le chrétien comme une source de puissance qui s'oppose à l'activité de notre ancienne nature de la chair. Et rien n'est plus beau dans le rassemblement et en dehors du rassemblement. Quand on connaît un frère qui est peut-être avare et de le voir capable de générosité, de voir un homme peut-être qui est prompt au courroux et de le voir doux et calme dans une occasion où il est touché particulièrement, mais ça, c'est l'esprit qui l'opère. Et de voir peut-être un frère qui aurait tendance à se mettre facilement en avant, de le voir s'effacer pour rechercher cette humilité que le Seigneur a montrée, c'est l'activité de l'esprit dans l'homme. Et rien n'est plus beau quand on peut dire d'un frère, c'est un chrétien dans lequel l'Esprit de Dieu travaille et porte ses fruits. Et les fruits de l'Esprit, nous les discernons chez nos frères et nos sœurs. Et c'est une découverte que peut-être nous ne nous appliquons pas assez à voir comment l'Esprit produit cela dans des êtres qui sont naturellement orgueilleux, égoïstes. Et puis l'Esprit est là qui travaille et qui fait produire l'amour du prochain, le désintéressement, l'intérêt pour des gens déshérités ou malades ou faibles. C'est l'Esprit Saint qui produit cela dans le croyant. Il y a une autre mission que l'Esprit Saint exerce, c'est que comme il lui plaît, il donne à telle ou telle personne des dons particuliers pour le bien de l'ensemble. Et ces dons, ils doivent être exercés encore dans la dépendance de l'Esprit. Et j'aimerais ici tout de suite dissiper un malentendu que certains frères ou certaines sœurs pourraient avoir en disant « Mais ce n'est alors que ceux qui auraient des dons particuliers ou assez évidents chez lesquels l'Esprit travaillerait. » Pas du tout. Il y a un travail de l'Esprit chez des chrétiens qui n'ont pas de dons évidents qui fait que ces chrétiens vivent dans une communion avec le Seigneur et dans une vie de prière et de piété qui est peut-être aux yeux de Dieu bien plus important que l'exercice évident d'un don. Et c'est peut-être cela le fruit de l'esprit dans le croyant qui est l'un des fruits les plus beaux, c'est de cultiver la communion de l'âme avec Christ. Et l'esprit prenant ce qui est de Christ et le mettant dans cette âme pour l'enrichir, pour lui permettre de se développer, de croître dans la connaissance du Seigneur. Et c'est pour cela que un frère disait, cela a souvent été cité, que le chrétien le plus éminent, ce n'est pas celui dont on parle le plus, mais c'est peut-être un très simple chrétien ignoré de beaucoup,
mais c'est lequel l'esprit travaille avec tant de puissance que ce chrétien vit dans une communion intime et profonde avec le Seigneur. J'aimerais passer maintenant à la seconde partie, c'est-à-dire l'activité de l'esprit dans l'assemblée. Et relier cette activité de l'esprit dans l'assemblée de Dieu au sujet des réunions de l'assemblée. Nous l'avons dit, nous le répétons, l'esprit présent sur la terre comme personne partira avec l'Église. Sans doute qu'il y aura des témoins après l'enlèvement de l'Église sur la terre qui pourront être animés par la puissance de Dieu. Mais celui qui retient, c'est-à-dire l'Esprit Saint, est pour l'Église et dans l'Église et sur la terre comme personne jusqu'au moment où il partira avec l'Église quand le Seigneur viendra la chercher. Cela est tellement clair que dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5e, l'Esprit n'est plus sur la terre quand l'Église est auprès du Seigneur, mais l'Esprit, les sept esprits de Dieu sont devant le trône de l'agneau. L'Esprit a quitté la sphère de la terre avec l'Église pour entrer dans la gloire. Mais pendant que l'Église est sur la terre, il y a une activité dans l'Église, de l'Esprit Saint. Dans le chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens, il y a les trois personnes de la Trinité, Dieu qui opère, Dieu qui place les membres dans le corps, il est dit deux fois, Dieu a placé les membres, Dieu a composé le corps, et puis en relation avec le service que l'on accomplit, il est dit qu'il y a un même Seigneur. Donc, les opérations dans l'Église sont de Dieu, les services dans l'Église, dans le chapitre 12 de 1 Corinthiens, sont pour un maître qui existe, et la puissance qui fait agir tous ses membres pour la gloire du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais un même esprit. Et alors, comment pratiquement cet esprit agit-il dans l'assemblée? Souvent, vu de l'extérieur, on se dit, eh bien, sans doute, quand les frères et les sœurs se réunissent pour des réunions, on voit que cela se déroule d'une certaine manière et selon certaines habitudes. Si l'impression est que ce sont des habitudes qui président au déroulement des réunions, pour une personne qui viendrait de l'extérieur, ce serait un sujet de profonde humiliation pour nous. Et à cet égard, tous les frères agissant dans l'assemblée doivent prendre garde à un fait, c'est de ne pas prendre la parole à des moments précis d'une réunion. Parce que nous sommes ainsi faits que nos habitudes l'emportent quelquefois sur la liberté de l'esprit dans l'assemblée. Et parce qu'on a pris l'habitude de rendre grâce à tel moment ou d'indiquer un cantique à tel moment, on continuera selon une habitude qui ne contredit en rien la piété du frère qui prend la parole, mais qui contredit la vérité de la liberté de l'esprit et qui crée ce danger immense dans une assemblée locale constituée de la routine et de l'habitude. À certains égards, dans les grands corps constitués, où il y a un ministère établi par les hommes, la question est plus simple. Il y a quelqu'un qui est responsable de présider à la cérémonie religieuse, ce quelqu'un dispose d'une liturgie, ensuite, dans la prédication qu'il adresse, il donnera ce qu'il a à donner, mais le déroulement de la cérémonie à cet égard est plus simple. Parce qu'il y a un président qui est un homme et qui assure le déroulement de la cérémonie. Quand le Saint-Esprit
esprit est président dans l'assemblée de Dieu. Il n'en est pas ainsi. Et il y a un exercice qui devrait être l'exercice de tous pour savoir si le moment est là pour rompre le silence ou pour le faire durer. Et les conditions d'une grande assemblée comme celle de Lausanne ne sont pas les mêmes que les conditions d'une petite assemblée où il n'y a que quelques frères. Nous avons, dans une grande assemblée comme Lausanne, à prendre garde d'une façon toute particulière à ces présidents de l'Esprit-Saint dans l'Église de Christ. Il devrait y avoir parmi nous des exercices chez les frères et chez les sœurs particuliers, parce qu'il peut y avoir des frères qui aimeraient s'exprimer et qui ne le peuvent pas à cause du grand nombre, et puis des frères qui aimeraient s'exprimer pour des motifs spirituels et qui le feraient au détriment d'un autre frère. Alors, il y a ce problème, cet exercice, c'est bien le mot qui convient, cet exercice dans l'assemblée réunie autour de Christ, pour savoir si c'est le moment et si c'est le frère qui convienne pour prendre la parole dans tel instant de la réunion. D'autre part, se lie à ce problème-là un autre problème tout aussi difficile et qui exerce les frères, c'est celui des silences. Tel frère estimera que l'action est trop précipitée et tel autre estimera que les silences sont trop longs. Mais ce qui est important dans cette question, c'est que le rythme de la réunion, quel que soit le rassemblement, soit déterminé par le sentiment dans la conscience de l'Assemblée que c'est l'Esprit qui agit.